Bien-aimé en Christ, bonjour. Nous allons faire une première lecture dans le psaume 91, le verset 1er. Psaume 91, le verset 1er. Je vous le lis sur la version Semeur. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons donc appeler cette prédication à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire à l'abri du Tout-Puissant. C'est un refuge sûr, sous les ailes divines. C'est la confiance, c'est la protection donc toute suffisante de Dieu. Quand le Seigneur ressuscité se présente aux siens assemblés dans la chambre haute, il leur montre d'abord ses mains, nous est-il dit, et ses pieds qui gardent le souvenir de ses souffrances. Puis il leur dit, dans Luc au chapitre 24, verset 44, « Il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. » C'est-à-dire, reçoivent son accomplissement, nous dit la version Semeur. Aussi, aujourd'hui, il désire faire brûler, je dirais, nos cœurs pour lui. Il ouvre aussi notre intelligence pour entendre les Écritures. Et conduit, je dirais, par son esprit, nous pouvons comprendre le caractère prophétique de nombreux psaumes qui ont d'abord en vue, je dirais, ça, personne et son œuvre. Il en est ainsi donc du psaume 91 qui donne à sa méditation, je dirais, un prix tout particulier. Il nous parle donc de confiance. Mais rappelons d'abord que le psaume précédent montre le premier Adam à ses descendants les conséquences de la désobéissance. Donc, Adam a désobéi. Et il est dit que ceux qui passent s'y adressent à celui qui demeure. Cela veut dire que leurs iniquités ont provoqué la colère divine. Il est dit, ils consument leurs années comme une pensée. Psaume 90, verset 9. Ils consument leurs années comme une pensée. J'aime bien la version Semeur qui nous dit « Nos années s'effacent comme un murmure. » C'est doux, un murmure. Voilà comment s'effacent nos propres années. Et la mort, salaire du péché, survient inexorablement. Toutefois, dans le cœur du fidèle, et nous sommes ses fidèles, il est vrai que l'espérance en nous n'est pas absente. Moïse demande à l'Éternel, « Retourne-toi, reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Et repens-toi à l'égard de tes serviteurs. » Nous sommes ses serviteurs. « Que ton œuvre apparaisse, disait-il, dans le psaume 90. » La réponse à cette prière se trouve au psaume donc 91. La ruine de l'homme est complète, mais un autre s'est présenté, le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, venu pour accomplir l'œuvre de rédemption, dont cette œuvre glorieuse, cette œuvre magnifique. Le psaume 111, le verset 3 nous dit, cherchez pas, je vous le lis, ses actes manifeste sa gloire et sa splendeur pour toute l'éternité subsiste sa justice. Amen. Le psaume 91, donc, nous dépeint son humanité dépendante et, je dirais, sa confiance continuelle. Quelle gloire morale à nul autre semblable et quelle valeur, je dirais, cette vie parfaite de Jésus, ne donne-t-elle pas à sa mort, à son sang répandu pour chacun d'entre nous? Comme fréquemment dans les psaumes, le premier verset nous donne le thème, il nous donne la note élevée, je dirais, de ce cantique. Il est dit qu'une parfaite sécurité est promise à ceux qui habitent dans leur demeure du Très-Haut. C'est donc une promesse. Ce nom divin, déjà employé par Daniel, prendra alors toute sa signification quand Dieu, manifestant sa souveraineté, apportera la bénédiction à la terre. Ce même verset nous présente aussi Dieu comme le Tout-Puissant, caractère sous lequel il se fait connaître à Abraham pour l'assurer que désormais sa protection et ses bénédictions reposeraient sur lui et sur la descendance, c'est-à-dire sur sa fécondité. Mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 17. J'ai dit de l'Éternel, je vous le lis, psaume 91, verset 2. Il est ma confiance, il est mon lieu fort, il est mon refuge, il est ma forteresse, il est mon Dieu, je me confierai en lui. La version sommaire dit, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Est-ce votre cas ce matin? L'homme donc a affirmé une telle confiance, je dirais, dans un élan de foi que sa vie entière a mis en évidence. Il choisit pour forteresse l'Éternel, nous a-t-il dit, le Dieu de l'Alliance, celui qui ne change pas, il n'y a pas ombre de variation en lui. Il met donc sa confiance en Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur. Il peut l'appeler mon Dieu. Est-ce notre cas ce matin? Pouvons-nous dire, tu es mon Dieu? Et Dieu se montre ici d'ailleurs sous différents caractères. Il ne manque essentiellement que sa révélation comme Père. Nous le savons ceci que dans le Nouveau Testament. Les promesses donc des versets 3 à 8 auraient dû être la part d'Israël s'il était resté dans le chemin de l'obéissance. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais l'Esprit Saint reconnaît à Jésus le droit de les faire siennes, de se les approprier. Il est dit qu'à maintes reprises, durant sa marche parfaite ici-bas, les hommes ont cherché malheureusement à le faire mourir. C'était impossible. Nous avons plusieurs références, j'en prends une seule. Jean chapitre 8 verset 20 et je vous la lis sur parole vivante. Alors, plusieurs essayèrent de l'arrêter et pourtant personne ne réussit à mettre la main sur lui parce que le moment n'était pas encore venu, l'heure fixée pour cela n'était pas encore venue. Il nous est dit qu'il échappe au filet de l'oiseleur dans Matthieu, à la destruction en plein midi dans Luc et même aux frayeurs de la nuit lorsqu'à sa voix, ses adversaires reculent et tombent par terre à l'arrestation de Jésus dans Jean au chapitre 18. Il est préservé jusqu'au moment où, prenant volontairement la place du pécheur, il va être livré pour nos propres fautes. Jean chapitre 10 verset 18 nous dit, je vous le lis, parole vivante, « Personne ne peut m'ôter la vie sans mon consentement. Je la sacrifie de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la liberté et de la sacrifier et de la reprendre. » Au verset 9 donc, de ce psaume 91, un autre interlocuteur intervient. Il dit qu'il a trouvé un refuge à l'Éternel. Et il affirme, en pleine communion avec la pensée de l'Esprit, que le Messie sera gardé, car il a mis, lui aussi, la confiance, sa confiance en l'Éternel. Est-ce que ce matin, nous avons mis vraiment notre confiance en l'Éternel? Il est dit qu'aucune plaie ne peut s'approcher de sa tente, parce qu'il n'y a pas de péché en lui. La maladie et la mort en sont les conséquences et ne peuvent pas l'atteindre. Il se confie, nous est-il dit, en Dieu, à l'abri de ses ailes. Confions-nous comme lui, à l'abri de ses ailes. Il est sans crainte, soyons sans crainte, mes bien-aimés, pendant son voyage, à travers un monde hostile, et nous vivons, nous aussi, dans un monde hostile. Une escorte, nous est-il dit, l'entoure. C'est des anges ont reçu des ordres à son sujet. Et Satan connaît lui aussi cette écriture. Il sait bien que les promesses de ce psaume concernent le Seigneur. Et quand pour le tenter au début de son ministère, il le transporte sur le faîte du temple, il ose lui citer ces versets dans Matthieu au chapitre 4. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Une autre version dit « que ton pied ne se blesse contre une pierre. » La citation est volontairement tronquée par le malin. Il omet de dire « et de te garder dans toutes tes voies. » Le diable et ceux qui le suivent sont très dangereux quand ils citent l'Écriture. Une demi-vérité qui n'est autre chose qu'un mensonge est d'autant plus pernicieuse qu'elle semble revêtue de l'autorité de la parole de Dieu. Tout aussi dangereuse est l'insistance sur cette vérité au détriment d'une autre laissée volontairement dans l'ombre. Vous m'avez compris. Mais il est dit que toutes les voies de l'homme parfait étaient réglées par l'obéissance. Nous devons nous aussi être obéissants comme l'homme parfait, c'est-à-dire le Christ Jésus. Quand lui parvient l'appel angoissé des deux sœurs de Lazare, c'est-à-dire Marthe et Marie, son ami, il est dit, celui que tu aimes est malade. Et parole vivante dit, Seigneur, ton ami est malade. Sommes-nous l'ami du Seigneur Jésus? Et à la surprise des disciples, il demeure encore deux jours au lieu où il était, attendant les directions de son Père. La mort de Lazare et la résurrection qu'il va opérer sont pour la gloire du Fils de Dieu, nous dit l'apôtre Jean. De même au désert, comment pourrait-il, à l'instigation de l'adversaire, il est dit sortir du chemin de la dépendance pour user de cette promesse, comme il en avait le droit. Non, il ne tombera pas dans le même péché qu'Israël. Et il déjoue donc la tentation donc de l'adversaire. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas, est-il dit dans le livre de l'Exode. Et la réponse de l'homme parfait Jésus tirée de l'Écriture, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, déjoue donc la ruse de Satan qui bientôt ayant accompli toute tentation, se retire de lui pour un temps, nous dit l'apôtre Luc. N'ayant pu le séduire, il va chercher pendant tout son ministère à le décourager par les agents démoniaques, par les agents quoi, des démons. N'est-ce pas aussi notre cas? Nous sommes souvent attaqués durant toute notre vie terrestre, d'enfants chrétiens, de fils de Dieu, par ses agents de l'adversaire, par ses agents démoniaques. Mais il est dit qu'à la croix vont s'accomplir donc toutes les promesses que Satan, lui, s'est bien gardé de citer. Il est dit que le lion, que le Seigneur marche sur le lion, que le Seigneur marche sur l'aspi, qu'il foule le lionceau, le dragon et le serpent. Autant donc de figures du prince de ce monde, celui dans sa force donc et dans sa ruse persécute les saints, c'est-à-dire les chrétiens, nous. Par la mort, Jésus a rendu impuissant, il a écrasé celui qui avait le pouvoir de la mort, nous dit donc l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire le malin. À la fin du psaume, Dieu lui-même parle de son bien-aimé. Dans le psaume toujours 91, il répète « Parce qu'il a mis son affection sur moi. » Et la version Sommer dit « Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Il sera placé en haute retraite parce qu'il a connu mon nom. Connaissez-vous le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ ? Il est dit que dans la détresse, Dieu honorera sa confiance inébranlable. Outre le salut et la vie, la suprême récompense réside dans cette promesse maintenant accomplie qui sera bientôt manifestée publiquement. Dans Jean 13, 32, il est dit « Je le glorifierai » et la parole vivante dit « Il fera paraître la gloire du Fils de l'homme. » Amen. Il fera paraître la gloire du Fils de l'homme. Mais les merveilleuses bénédictions de ce psaume sont également pour les fidèles, c'est-à-dire pour nous, de tous les temps. Il faut donc se les approprier. Ils peuvent donc se reposer sur les mêmes grâces assurées donc que David. Il est dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Amen. Donc, au jour du malheur, il ne faut pas nous affoler. Nous savons que le Seigneur nous protégera. Nous savons donc que le Seigneur est avec nous. Comme Christ sur la terre, il soupire, nous est-il dit, après les parvis de Dieu. Sur le seuil de la maison de mon Dieu, il soupire. Est-ce que nous-mêmes, nous soupirons après les parvis de Dieu, nous dit le psaume 84. Et dans cette attente, donc, ils peuvent loger pendant la nuit, je dirais, de l'absence de leur Seigneur dans la demeure secrète du Très-Haut, où les fidèles, nous est-il dit, sont cachés à l'abri des complots, sont cachés à l'abri des méchants et des entreprises pernicieuses de l'ennemi dans le psaume 83. Mais pour jouir d'une si précieuse protection, il faut avec humilité et obéissance rester dans une étroite dépendance de Dieu. Il n'a pas dit qu'il nous garderait sur notre propre chemin, mais non sur le sien. Notre insouciance parfois et notre insoumission nous font souvent oublier celui qui rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer, et vous le connaissez très bien. Le terrible arsenal de Satan, décrit dans les versets 3 à 6 du psaume 83, montre en effet combien nous avons besoin d'être constamment entourés d'une haie de protection. Il nous est dit que l'ennemi est comparé à un oiseleur, d'autant plus à craindre qu'il est caché et lancé. Avec quelle patience, quelle ruse, ce chasseur dresse ses filets et parvient à s'emparer même des oiseaux les plus méfiants. Méfions-nous, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 12. Il faut une délivrance spéciale de la part, je dirais, de Dieu pour s'écrier dans le psaume 124, verset 7, « Mon âme s'est échappée, le filet, le piège s'est rompu. » Il est aussi parlé, vous avez remarqué, des frayeurs de la nuit. Des inquiétudes peuvent s'emparer de notre esprit. Le croyez-vous ? Vous n'êtes jamais inquiet ? Nous sommes agités, remplis d'un sentiment, je dirais, d'insécurité. Seule l'assurance de la proximité du Seigneur et le précieux recours à la prière peuvent nous apporter cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, nos cœurs et nos pensées sont gardés dans le Christ Jésus. Et ces ressources rappellent, je dirais, les hommes forts, les hommes vaillants, entourant le lit du roi Salomon. Ils étaient exercés pour la guerre, ils étaient exercés pour le combat, et ils nous ont dit, ils ont une épée, figure de la parole de Dieu, à cause des frayeurs de la nuit. Mes bien-aimés, armons-nous, nous aussi, et nous serons forts. Le verset 5 du psaume 91, donc, mentionne aussi la flèche qui vole de jour. C'est peut-être une mauvaise pensée surgie à l'improviste par manque de vigilance. D'une conversation douteuse, d'une lecture douteuse ou d'un film douteux qui se révèle un malsain. Tant de choses peuvent exciter notre chair, la mettre en activité. Il ne faut pas nourrir d'une telle pensée involontaire, mais fermer l'oreille, détourner nos regards. Sinon, la communion avec le Seigneur va se trouver malheureusement interrompue. Lui seul est digne d'occuper nos cœurs, de retenir, j'oserais dire, par son amour, toutes nos pensées. Par sa présence, mes bien-aimés, il guérit nos langueurs. Il guérit nos langueurs, c'est-à-dire qu'il guérit notre abattement moral. N'êtes-vous jamais abattu moralement ? Vous seul détenez la réponse. Au verset 6, il nous est dit « La peste qui marche dans les ténèbres, qui marche dans l'obscurité. » Elle est sans doute une image de ces œuvres mauvaises qui se pratiquent de préférence la nuit. L'apôtre Jean nous dit que le péché n'aime pas la lumière. Il dit même « Les hommes lui ont préféré les ténèbres. » Le souvenir des souffrances que le Seigneur a endurées pendant les 3 heures de ténèbres à la croix, quand il portait volontairement nos iniquités devant la justice de Dieu, nous aidera, mes bien-aimés, à rejeter le péché sans faiblesse et avec horreur. Si au contraire, le mal est aimé, s'il est doux dans notre bouche, si le péché est aimé, quelle proie facile nous sommes pour l'ennemi et ses agents démoniaques. Le verset 6 du psaume 91 mentionne aussi, ou enfin, la contagion ou la destruction qui dévaste en plein midi. En plein midi, là, tout le monde vous voit et vous entend. Pourquoi ? Mais parce que parfois Satan n'hésite pas à se montrer à découvert. Et il monte avec la violence d'un fleuve. Le prophète Ésaïe nous le dit, 59, verset 19. Je vous le lis. « Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Amen. Pensons au coup répété qu'il a porté à Job dans la main de l'adversaire. Et même la femme de Job était devenue un instrument dans la main de l'adversaire. Elle lui avait dit « Maudit Dieu est mort, maudit Dieu et dégage. » Voilà ce que ça voulait dire. N'oublions jamais, au milieu de si grandes épreuves qui peuvent atteindre notre esprit et notre corps, que la permission accordée à Satan est rigoureusement limitée. Dieu a dit à Satan, ne porte pas la main sur lui, épargne sa vie à Job. Le but divin est clairement défini. S'il nous éprouve, s'il nous humilie, mes bien-aimés, c'est pour nous faire du bien à la fin. Amen. Notre Dieu, il a ses méthodes divines utilisées pour éprouver les croyants. Et nous sommes des croyants. Contre de si grands dangers, pour donc traverser ces tribulations, Dieu offre, je dirais, son secours tout-puissant à l'homme pieux, c'est-à-dire à nous qui croyons, à nous qui marchons sur ces traces de l'homme parfait, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le psaume donne d'autres images de cette protection. Il est parlé d'une forteresse imprenable, nous l'avons vu au psaume 91 et au verset 2, d'une forteresse dont pour le salut même de son Messie, nous dit la version Semeur. Ce que le psaume 28 et au verset 8 appelle le lieu fort des délivrances de son noël. Puis, devant la menace précise de l'oiseleur, Dieu se sert de l'image d'une poule qui, à l'heure du danger, rassemble ses poussins sans défense sous ses ailes. Matthieu 23, verset 37. Il veut bien, mes bien-aimés, nous accorder une assistance totale contre les prédateurs. Là, je suis toujours à l'abri de danger. Peut affirmer donc le racheté. Il est dit, tu les protégeras et nous sommes donc ces rachetés, nous sommes protégés par sa grâce. La vérité nous est aussi présentée comme notre sauvegarde. Il est dit, l'Éternel Dieu est vérité. C'est lui seul qui est vérité dans le prophète Jérémie. Et sa parole d'or est pour nous comme un bouclier impénétrable. Seul, seulement seul, un bouclier peut éteindre les traits, c'est-à-dire les dards enflammés du malin. Vous l'avez dit, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, et vous connaissez très bien ce passage. À ces attaques, le Seigneur a toujours répondu par la parole. Il est écrit, il est encore écrit dans Matthieu au chapitre 4, vous l'avez. Il nous appartient de nous servir comme lui de sa parole. Il est écrit, ce sont nos armes spirituelles. Il nous a dit qu'elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Enfin, les anges, dans ce passage, ou dans ce psaume, sont présentés comme des administrateurs envoyés, c'est-à-dire en mission, en service, pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Vous l'avez dans Hébreu, au chapitre 1er, au verset 14. Il nous est dit qu'ils sont invisibles, mais qu'ils sont puissants en force, et qui sont là pour exécuter la parole de Dieu, et nous bénéficions, nous, de leurs soins diligents. Bien-aimés, par l'œuvre de la croix, nous sommes toujours étroitement associés à Christ. Je vous le lis, 1 Jean 4, 17, il est dit, il est lui, c'est-à-dire Jésus, comme il est lui Jésus, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Et à ce titre, nous sommes donc les objets de ses soins constants. Il nous aimait quand, dans son amour invariable, il prie pour que nous soyons sanctifiés. Le Seigneur prie pour que nous soyons préservés du mal. Il est dit par l'apôtre Jean au chapitre 17, « Je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde. Père Saint, garde-les, maintiens-les attachés à ta personne, nous dit parole vivante. Maintiens-les attachés à ta personne. » Et tandis que nous sommes laissés un court, je dirais instant, un court moment encore dans ce monde souillé, entouré de dangers, ces merveilleuses ressources sont à la disposition de ceux qui le craignent. Et nous sommes de cela, de ceux qui pensent à son nom, de ceux qui respectent son nom. Et nous sommes de cela et qu'il aime appeler, écoutez bien, dans Malachie 3,16, son précieux trésor particulier. Nous sommes le précieux trésor particulier de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous sommes aussi à l'ombre donc des ailes du Tout-Puissant. Le psaume 91 que nous connaissons, non, le verset 4 nous dit « Je t'abrite, ou il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouveras un refuge sûr. » Un refuge sûr. Car il est vraiment un refuge contre les ennemis. Que nous dit le psaume 17, le verset 8? Psaume 17, verset 8, je vous le lis. « Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. » Là, le juste, et nous sommes justes, devant les méchants qui le dévastent et les ennemis qui nous entourent, s'est trouvé un refuge assuré sous ses ailes protectrices et se mettre à l'abri de tout danger. Quel ennemi pourrait nous atteindre et nous faire du mal dans un tel lien, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant? Amen. Le psaume 57 et le verset 1 et 2, psaume 57, verset 1 et 2, nous dit « Un refuge contre les calamités. » L'âme donc se réfugie sous l'ombre de ses ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. La version Sommer nous dit « Tant que durera le malheur. » La foi dans ces versets y jouit de trois choses. Premièrement, elle a un refuge assuré. Deuxièmement, elle sait que les calamités, si grandes soient-elles, ne sont que pour un moment et passeront. Et oui. Et troisièmement, elle sait que le Dieu Très-Haut, qui est élevé au-dessus, mène tout à bonne fin pour elle. Rachetés du Seigneur, et nous le sommes. Combien dans les jours actuels nous avons besoin de réaliser ces trois choses, en sorte qu'elles soient vraiment des choses vécues pour nos âmes. Beaucoup d'entre nous sont dans la détresse. Les uns, je dirais, pour ce qui concerne les choses de la vie. D'autres, parce que le travail fait défaut, ou un logement. D'autres enfin, et ils sont nombreux, par la maladie, par la dépression, ou par le deuil, que tout cela ait pour effet de nous approcher du Seigneur et de nous faire chercher un refuge à l'ombre de ses ailes, en attendant que ces calamités soient passées, parce qu'elles passeront. Le Seigneur nous délivrera. Restons tranquilles, calmes, mes bien-aimés. La parole nous dit, je vous le lis, sachant que tout est entre les mains de celui qui fait concourir toutes choses pour notre plus grand bien, et que bientôt la délivrance sera apportée par celui qui vient du ciel. Le psaume 32, verset 7. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes des dangers. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Amen. Le psaume, chapitre 36, verset 5 à 9. Psaume 36, ça va s'afficher, verset 5 à 9. Nous parle d'un refuge vers la bonté et vers la fidélité de Dieu. Moi, je l'abrégerai. Nous trouvons là les fils des hommes, c'est-à-dire les humains, c'est-à-dire nous, se réfugiant à l'ombre de ses ailes bénies. Il est dit dans ce passage que l'âme y est conduite, non à cause des ennemis cette fois-ci, ni par les calamités, mais par la beauté et par la fidélité de l'Éternel, de celui dont la fidèle bonté envers son peuple ne change pas. Ô Dieu, combien est précieuse ta bonté, nous est-il dit, ainsi les fils des hommes, des humains, se réfugient sous l'ombre de tes ailes. Où trouver un lieu pareil? Pourtant, parfois, dans notre folie, nous nous en éloignons souvent. Mais là, nous sommes rassasiés de la graisse de sa maison, c'est-à-dire de l'abondance de la maison de Dieu. Nous sommes abreuvés au torrent, abreuvés au fleuve de ses délices. Et là, nous sommes dans la lumière de sa présence. Et le verset 10 nous dit, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. En conclusion, c'est le psaume 63, verset 8, qui nous le dit. Un lieu où l'on pleure. Non, j'ai dû me tromper. Un lieu où l'on chante. Amen. Ici, David peut dire, à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Une autre version dit, je crie de joie. Une autre version encore dit, je suis dans l'allégresse. En fait, j'ai pris la Bible du Jérusalem, alors là, ça m'a plu. Je jubile à l'ombre de tes ailes. Est-ce que nous jubilons à l'ombre des ailes de notre Dieu? Amen. Alléluia. Dans la pleine lumière du Saint-Lieu, rassasié des délices du sanctuaire, ayant nos cœurs remplis de Christ, la reconnaissance peut s'élever avec joie vers celui que la foi a su trouver et dans lequel elle possède tout ce qu'elle peut désirer. Dans les bons et, je dirais, les mauvais jours, entre guillemets, sachons nous tenir sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Il y a tant de bénédictions à chanter les louanges de notre Dieu. Chanter, vous me direz, au milieu d'un désert, n'est pas chose commune. Pourtant, c'est ce que faisait David quand il était dans le désert de Juda, poursuivi et en fuite devant Saül. Nous aussi dans le désert de Juda, c'est-à-dire en pleine sécheresse spirituelle, nous devons aussi rechercher Dieu. Car lui, David, et nous aussi, nous pouvons être à l'ombre des ailes de celui qu'il cherchait au point du jour, dès le lever du jour. Que ce soit aussi notre part à tous, à l'ombre de notre Dieu protecteur. Amen. Seigneur Jésus, Nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Elle nourrit notre âme. Elle nous fait du bien dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les épreuves, dans l'anxiété, dans la maladie. Tu es là pour nous secourir et nous sommes à l'abri, à l'ombre de tes ailes. Nous sommes sous les plumes d'une poule qui couve ses poussins. Que ton nom soit glorifié pour tant d'amour à notre égard. Et là, l'adversaire ne peut nous atteindre avec ses traits enflammés. Seigneur mon Dieu, nous voulons placer notre foi, notre confiance et notre espérance en toi, parce que tu es le seul Dieu, le vrai, l'unique, le vivant, celui qui sauve aujourd'hui encore, celui qui délivre encore, celui qui a besoin de ta grâce, celui qui est dans la détresse, dans la maladie et dans le deuil, parce que tu es celui, Seigneur, qui console, tu es celui qui relève, tu es celui qui donne la paix, tu es celui qui donne l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, je te demande de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, et de nous garder, Seigneur, en paix, de renouveler notre foi, animée d'une flamme nouvelle, animée d'un zèle nouveau, afin qu'il y ait le feu de l'Esprit au milieu de ton peuple. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.